This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dacia. France Inter. Le 18-20.
Le 18-20 ce soir en Suède, en Corée du Nord et en Bolivie, ce sera ailleurs dans le monde, le journal de l'international de Michael Thébault. Cinéma, Eva Bétan viendra nous parler du film Aquarius à 18h55. C'est l'édito d'Anthony Bélanger consacré ce soir à cette nouvelle terre d'élection pour la vigne et le vin. J'ai nommé la Sibérie. Mais tout de suite, retour aux États-Unis.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
Où se déroulait hier soir le premier débat entre Hillary Clinton et Donald Trump, moment très attendu de la campagne, 90 minutes d'échange sans publicité, ce qui est une prouesse à la télévision américaine. À la veille de ce débat, c'est Hillary Clinton qui abordait l'échéance en situation de relative fragilité. Donald Trump, grand pro de la télévision, partant lui favori ou en tout cas décontracté, c'est ce qu'il avait dit. Au lendemain du débat, eh bien ce ne fut pas si facile pour Trump et l'avantage semble revenir à Clinton, même si les partisans de l'une et de l'autre se déchirent en ce moment même sur Internet pour savoir qui l'a emporté. Bonsoir Sylvain Sipel.
Oui, bonsoir.
Vous êtes en plein jet lag, comme on dit, en plein décalage horaire, vous revenez des États-Unis. Ça fait longtemps maintenant que nous suivons avec vous la campagne présidentielle américaine. Deux livres, Un nouveau rêve américain, désormais disponible en livre de poche, et la semaine prochaine sortira aux éditions Don Quichotte, Liberty, sous-titre. Alors je vais prendre mon souffle. Quand les États-Unis, malgré de puissantes résistances intérieures, attirent en masse les immigrés et en bénéficient, la France les rejette et les prive de cette chance. On dira quelques mots de ce livre à paraître
si vous voulez
tout à l'heure. Alors ce débat, comment l'avez-vous vécu, reçu? Il y a la bataille des commentaires hein, tout de suite après
bataille...
qui fait rage.
Non, je dirais, vous avez cité la bataille sur le net et la bataille des partisans. Quand on lit la presse, et en particulier la grande presse américaine, il n'y a pas beaucoup de doutes, si vous voulez. Hein. Et quand on a vu le débat non plus, c'est-à-dire que globalement, on a été déçu par Trump parce qu'on attendait de lui beaucoup mieux, entre guillemets.
Oui, un grand moment de télévision.
C'est-à-dire pire.
Oui.
C'est-à-dire qu'on pensait... Alors, il a attaqué sur les domaines sur lesquels on pensait qu'il allait attaquer. Mais donc, elle s'y préparait, elle a remarquablement répondu, à peu près sur tout. Et sur les affaires financières en particulier, elle a très bien répondu, puisqu'il a toujours pas dévoilé les impôts qu'il paye. Et donc, sinon sur le reste, il a été décevant parce qu'il n'a pas surpris. Et donc, tout le monde pensait, par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais encore hier aux États-Unis avant le débat. Les gens disaient, mais ce type est capable en plein débat de dire, mais enfin, madame, vous êtes malade. Ça s'est vu. Tout le monde le sait que vous êtes malade. Vous n'êtes pas en mesure de diriger un pays. Et tout le monde se disait, s'il fait ça, elle doit s'y attendre, mais enfin, ça va être compliqué pour elle. La semaine dernière, elle avait une pneumonie. Enfin bon, il n'a pas fait. Il n'a pas fait ça et il est revenu sur des attaques très convenues et il n'a pas répondu sur le fond, sur le terrain politique. Ce qui fait que la grande presse, mais pas seulement le Washington Post ou le New York Times, le Wall Street Journal, enfin le LA Times, tous reconnaissent qu'il a perdu ce premier débat. Il faut quand même rappeler que ça ne veut rien dire.
Ça ne veut absolument rien dire.
C'est très important, c'est-à-dire que Obama, on a oublié aujourd'hui, avait été écrabouillé au premier débat contre Romney.
Et c'était refait par la suite.
Il s'était totalement refait sur les deux débats suivants, et en particulier sur le deuxième débat. Et aux États-Unis, on dit généralement que c'est le deuxième qui compte, quoi. Parce que le deuxième, soit celui qui a gagné le premier remet une couche et c'est terminé, soit il perd, et à ce moment-là, ça modifie la donne.
Et comment avez-vous trouvé de ce fait, vous avez parlé de Donald Trump, la prestation d'Hillary Clinton, qui devait, alors disait-on, on a fait une émission hier sur le sujet, Frédéric Carbone nous disait un peu notre correspondant aux États-Unis, quels étaient les enjeux pour l'un et pour l'autre, apparaître moins froide, moins distante, moins manipulatrice, il y avait tout ça qu'il fallait gérer pour Hillary Clinton.
Elle a fait, je dirais, du bon Clinton. Et ça change pas grand-chose à la donne. C'est-à-dire, elle a été bonne, globalement. Elle a facilement dominé le débat, sur le fond, et elle a tenu face aux attaques de Trump, attaques personnelles. Elle a tenu, et sur le fond, elle l'a écrasé parce que elle a dit des choses intéressantes ou pas, peu importe, mais lui ne disait rien. Donc, de ce point de vue-là, elle a été bonne, elle reste d'une certaine manière inquiétante. J'essaie de vous dire pourquoi. C'est-à-dire que elle a un handicap terrible. Énormément de gens dans son camp considèrent qu'elle n'est pas une bonne candidate. Elle n'éveille pas d'enthousiasme, ou peu d'enthousiasme. Elle a quelque chose de politicien. D'abord, elle sait tout sur tout. Et ensuite, c'est une politicienne très lisse. Elle n'a pas d'aspérité. Elle a toujours ce même sourire figé sur elle-même. Et il y a une, elle dégage, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, elle dégage quelque chose de insincère, de inauthentique, de fabriqué. Et hier, je lis un peu ce qu'a écrit Roger Cohen, par exemple, ce matin dans le New York Times, des choses comme ça. Elle a gagné, très clairement gagné. Il y a, les Américains sont, moi, je rentre de New York. Mm. Les gens sont effarés. Et pourquoi? Parce que normalement, elle devrait gagner avec 20 points d'écart. Je veux dire, dans la sociologie de l'Amérique d'aujourd'hui.
Et on en a parlé ici. On en a parlé très ici souvent. Même.
Voilà. Dans cette sociologie-là, j'exagère peut-être pas 20, mais au moins 15 points. Je veux dire, elle devrait gagner comme Johnson, en 1964, avait écrasé Goldwater. Or, ça n'est pas ce qui se passe. Or, les sondages la donnent devant. Ça fait un an que ça dure. Entre un point et cinq points. À un moment, elle a eu 12 points d'avance, mais ça a été très court. Et elle est entre 1 et 5 points. Mmh. Il y a là quelque chose de bizarre qui se passe, qui fait que, bon, évidemment, elle va gagner, mais on craint quand même l'impensable. Quelqu'un m'a dit, quand j'étais aux États-Unis, vous savez, Churchill a perdu les élections en 1944. Mmh. Voilà. Il était le vainqueur de la guerre, il a perdu les élections. Donc, tout peut arriver. Et cette idée-là, que elle ne suscite pas d'enthousiasme, aucun. Ça inquiète beaucoup, y compris de ses propres partisans.
Alors j'étais très heureux de vous recevoir, Sylvain Sipel, parce que à chaque fois qu'on s'est vu, vous nous avez dit sociologiquement, est impossible que Donald Trump gagne. Sociologiquement, quand on regarde ce qu'est l'électorat aux États-Unis, on ne peut pas gagner qu'avec le vote des hommes blancs déclassés. Voilà. Et vous avez dit lors de notre dernier entretien que elle le battrait de 20 points. Aujourd'hui, vous nuanceriez vos propos.
J'ai pas votre souvenir, mais si j'ai dit, je veux dire, la logique, c'était ça. La logique, c'était qu'elle gagne de 15 points, de 20 points. C'était ça la logique dans l'Amérique actuelle. Pour que Donald Trump gagne, il faut que les jeunes ne votent pas pour elle. Ceux qui ont massivement voté pour Obama, il faut que ça n'arrive plus. C'est-à-dire qu'il faut que les jeunes ne votent pas pour elle. Il faut que les Noirs ne votent pas pour elle. Il faut que les femmes ne votent pas massivement pour elle. Il faut que les Hispaniques ne votent pas pour elle. Ça fait beaucoup. Ça veut dire qu'il faut qu'elle dégage quelque chose qui soit repoussant pour une partie de ces couches sociales dont je viens de parler. Eh bien, actuellement, si vraiment elle n'a que 2 points d'avance, ça ne peut s'expliquer que par la défection d'une partie importante de la jeunesse. Alors, dans le débat d'hier, elle a fait tout, on a vu très clairement qu'elle a fait, elle a pas parler des jeunes, mais elle a proposé une série de mesures qui, clairement, en particulier sur la question de la dette universitaire, qui en particulier, les pré-étudiants s'adressaient aux jeunes très clairement. Elle s'est très clairement adressée aux femmes, elle a rappelé les propos de Trump concernant les femmes, et donc elle a fait, parce qu'elle sait qu'elle ne fait pas parmi, et chez les Noirs, il y avait le New York Times il y a 3 semaines qui titrait que dans la jeunesse noire, elle ne passe pas. Il faut quand même savoir que, bon, Obama avait l'avantage de l'être lui-même, mais son mari, Bill Clinton, était le héros de la communauté noire. Pas seulement parce qu'il joue du saxo. Il était, pour ses prises de position politique, le héros de la classe noire. C'est assez bizarre. Et le New York Times disait que à l'intérieur du parti, on s'en inquiète. Là, il y a une désaffection de la jeunesse noire.
Et c'est sans doute pour ça que Barack Obama fait campagne à ce point, quasiment
vraisemblablement
à temps plein.
Oui, et son mari, oui, qui font campagne. Ça s'est vu très nettement quand elle a été malade. Ils ont vraiment, là, pour le coup, occupé le terrain. Mmh.
Vous avez dû voir que les fact-checkers, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire ceux qui... c'est l'un des fondements de la presse américaine, ceux qui vérifient les faits avant publication, ont eu du travail en direct, que l'un des principaux sites de fact-checking est tombé en carafe au milieu du débat, parce que
il y avait trop de travail.
Que pensez-vous de ce concept qu'on a rencontré hier soir au téléphone sonne, de post-vérité, de démocratie post-factuelle, dont Donald Trump serait l'incarnation?
D'abord, c'est pas le premier à l'avoir incarné. l'Europe a eu son Berlusconi. Il faut se souvenir de ce qu'étaient les campagnes de Berlusconi. Quand on parle de... Alors, Donald Trump, c'est-à-dire, il a quelque chose de commun avec Berlusconi, c'est un homme de entertainment, c'est un homme de spectacle. Voilà, c'est un homme de spectacle. Et de ce point de vue-là, il donne beaucoup de travail au fact-checking. Moi, je trouve ça pas mal, le fact-checking. Il y a des aspects un peu puritains dans le fact-checking, c'est-à-dire, il faut correspondre à cette idée fondamentale dans je dirais, l'état d'esprit américain, que le plus grand des péchés, c'est le mensonge. Mmh. Quand Bill Clinton, quand il y a l'affaire Monica Lewinsky, Bill Clinton n'est pas accusé pour l'acte qu'il aurait commis. Il est accusé de mentir sur l'acte qu'il aurait commis. De la même façon, quand il y a l'affaire DSK, Nafissatou Diallo, son témoignage est invalidé parce que lorsqu'elle a fait ses papiers pour devenir américaine, elle a menti sur un point. Mentir est le crime absolu. De ce point de vue-là, cette aspiration à une forme de pureté, où personne ne mentirait jamais, est très problématique, pas seulement sur le plan philosophique, mais dans la vie de tous les jours. Cela étant, ça a quand même quelques avantages. C'est-à-dire que quand un homme politique quand il y a un débat politique, quand un homme politique fait des affirmations, on va naturellement vérifier. Et les journaux ont des équipes qui vont vérifier. Et franchement, quand vous avez un Trump en face de vous, c'est pas si mal d'aller vérifier. Parce que la quantité est sidérante. D'ailleurs, hier, quand on disait qu'ils ont été débordés, c'était du 80-20. C'est-à-dire que c'était 80% pour ce que disait Trump. Et 20% pour ce que disait Clinton.
Mais on sait qu'il a un rapport, Trump élastique à la vérité. Oui. Et pourtant, ça ne l'empêche pas d'être où il en est dans la campagne.
Non, ça l'empêche pas. Et d'ailleurs, l'un de ses gros avantages, c'est lorsqu'on dit qu'il ment sur un point, une grande partie de ses poursuivants ne le croient pas. C'est-à-dire qu'on dit, c'est les médias, c'est normal, c'est les médias qui disent ça.
Les médias sont de gauche.
Les médias sont de gauche, les médias sont anti-Trump, les médias n'aiment pas, etc. Et nous, on sait que ce qu'il dit est vrai.
Pourquoi avez-vous choisi, pour votre nouveau livre qui sort, je le redis, aux éditions Don Quichotte la semaine prochaine, qui s'intitule Liberty, et je reprends mon souffle pour donner le sous-titre, quand les États-Unis, malgré de puissantes résistances intérieures, attirent en masse les immigrés et en bénéficient, la France les rejette et les prive de cette chance. Pourquoi avoir choisi pour ce nouveau livre de travailler sur l'immigration aux États-Unis et en France, bien sûr, mais aux États-Unis pour commencer.
Je suis arrivé aux États-Unis, Bush était encore... j'étais comme correspondant, je suis arrivé, Bush était terminé son second mandat, et il avait essayé de faire passer une loi pour régler la question migratoire aux États-Unis. Et quand on dit ça aux États-Unis, vous savez, il y a un nombre de sans-papiers absolument gigantesque. Il y en a 5 fois plus qu'en France, 6 fois plus qu'en France. Et donc, à l'époque, il n'y avait encore que 7 millions de sans-papiers, ou 7,5. Et il n'y est pas parvenu. Il avait le soutien de Ted Kennedy, il avait un accord avec les démocrates. Il n'y est pas parvenu parce que une grande partie de son propre camp, les républicains, et une petite partie des démocrates se sont opposés.
Pas de
régularisation. Et je me suis aperçu de l'importance de la question migratoire. Assez vite, je me suis aperçu, disons il y a 2 ans, j'ai compris que la question migratoire allait être la question clé dans le débat français et dans le débat américain. Et je me suis dit, peut-être qu'il serait intéressant de comparer les deux débats, de montrer aux Français ce qui se passe ailleurs et comment la question est gérée. Et de voir qu'est-ce qui est similaire et qu'est-ce qui est différent. Je dis là des généralités, je peux dire en une phrase ce qui est similaire et ce qui est différent.
Allez-y.
Eh ben, en une phrase, les Américains ont Trump, les Américains ont leurs propres Zemmour, les Américains ont leur propre Le Pen, etc. C'est-à-dire que à droite et à l'extrême droite, le discours est vraiment le même. La différence, elle est dans le camp de ceux qui devraient être favorables à l'immigration, c'est-à-dire globalement la gauche, le centre-gauche. Ou si vous voulez, en France, on peut dire que maintenant, depuis une trentaine d'années, Le Pen dicte l'agenda politique. C'est-à-dire que les autres se déterminent par rapport au point de vue du Front National, en s'y adaptant, etc., ou en essayant de le concurrencer sur ton terrain, peu importe. Alors qu'aux États-Unis, que ce soit Clinton, que ce soit Obama, etc., le Parti démocrate, globalement, et surtout la société civile, se mobilise et s'organise parce qu'ils pensent fondamentalement que l'immigration est un apport et non pas un handicap pour leur société.
la société civile, c'est la grande différence.
C'est la grande différence.
Point d'interrogation.
Non, c'est la grande différence entre les États-Unis et la France. Je pense que la raison pour laquelle la politique d'Obama n'a pas été géniale sur la question de l'immigratoire. D'ailleurs, là encore, par exemple, sur la question des Haïtiens, il est en train de bloquer. Ça fait 2 ans que les Haïtiens pouvaient très facilement venir aux États-Unis. Il est en train d'y mettre un terme. Et globalement, il y a eu un moment où on l'a appelé l'expulseur en chef, Obama. C'est-à-dire les Mexicains, les Latinos en particulier, parce que il y a des expulsions massives qui se font aux États-Unis. Et donc, la politique d'Obama a été meilleure que celle de ses prédécesseurs, plus favorable à l'immigration, mais elle n'a pas été extraordinairement favorable. En revanche, le discours sur la question, il n'a jamais varié. Lorsqu'il y a eu aux États-Unis une attaque qui a été menée par Trump dès le départ et par toute une série de républicains pour dire il ne faut pas que les Syriens puissent rentrer aux États-Unis, Obama a dit « mais les réfugiés syriens de nos jours sont les réfugiés juifs des années 30 ». C'est la même chose. Et ça, c'est quelque chose qui change tout. C'est-à-dire que le discours, la position officielle, elle se fonde aussi sur le fait qu'il sait que, sur cette idée-là, il a une majorité, je dirais, une majorité militante certaine dans la société civile. Et les sondages le montrent, il a vraisemblablement une majorité faible, mais il a une majorité sur une modification radicale de la politique migratoire et sur l'idée que l'immigration est un bienfait beaucoup plus qu'un handicap. Vous savez, il y a eu un Roger Cohen, qui est un éditorialiste du New York Times.
Parfait francophone.
Lorsqu'il y a eu tout le débat sur les réfugiés syriens aux États-Unis, faut-il ou pas les accepter? C'était après Cologne. C'était après les attaques et les viols de femmes commis. Alors, il s'est avéré que c'était pas des réfugiés syriens, mais peu importe. À l'époque, on le pensait. Il a fait un éditorial extraordinaire qu'il avait intitulé « Le principe Capone ». Il avait dit « Que nous a amené l'immigration italienne ?» Elle nous a amené Fermi, qui était un immense scientifique atomique. Elle nous a amené Frank Sinatra. Elle nous a amené Joe DiMaggio dans le baseball. Elle nous a aussi amené Al Capone et la mafia. Oui, il y avait des criminels. C'était épouvantable parmi les immigrés italiens. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un dirait qu'elle a été à notre déficit ou à notre bénéfice? Eh bien, c'est pareil. Et il leur a dit, vous savez qui était syrien? Quelqu'un que tout le monde connaît. Il s'appelle Steve Jobs et son papa était un syrien. Qui peut se passer de ces gens-là? Mais c'est cet état d'esprit qui existe aux États-Unis et qui malheureusement est extrêmement affaibli en France.
Bon, on vous invite à nouveau dès que votre livre est en librairie.
Quand vous voulez.
Merci beaucoup Sylvain Sipel. Alors celui qui est désormais disponible en livre de poche s'appelle Un nouveau rêve américain. Celui qui sort la semaine prochaine aux éditions Don Quichotte et dont on a pu dire que quelques mots s'intitule lui Liberty, sous-titre pour la troisième fois quand les États-Unis, malgré de puissantes résistances intérieures, attirent en masse les immigrés et en bénéficient. La France les rejette et les prive de cette chance. Merci encore.
Merci à vous.
18h35. Dancing in the Street. Martha Reeves sur Inter, 18h37.
Horas, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Bonsoir Mickaël Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Ailleurs dans le monde, pour commencer, direction la Suède, le pays d'Europe qui, après l'Allemagne, a accueilli le plus de réfugiés depuis janvier 2015.
Près de 250 000 demandeurs d'asile au total, dont 165 000 l'an dernier. Et le gouvernement de centre-gauche se prépare déjà à 2017, tablant sur 30 à 40 000 nouveaux arrivants. Des fonds spéciaux ont même déjà été débloqués. Une enveloppe de 10 milliards de couronnes, à peu près 1 milliard d'euros, pour aider les collectivités locales à accueillir les réfugiés. Et l'accueil, justement, est en train de devenir un véritable business en Suède. Car avant même l'arrivée de toutes ces populations, eh bien le marché de l'immobilier était complètement saturé. Du coup, des acteurs privés se sont engouffrés dans la brèche. Anciens hôtels, centres de vacances abandonnés, pensionnats désertés, ils ont mis la main sur tout ce qu'ils trouvaient pour ensuite les louer à l'Office des migrations, organisme évidemment public. Et sur ce marché très particulier, très lucratif, le leader s'appelle Bert Carlson, homme d'affaires de 71 ans, plein de ressources et surtout sans scrupules. Bonjour Anne-Françoise Hiver, correspondante de France Inter à Stockholm.
Bonjour Mickaël.
Alors vous avez rencontré pour nous ce Bert Carlson chez lui à Skara, c'est dans le centre de la Suède.
Il est venu nous chercher en voiture à la gare de cette petite ville de province située à 350 km de Stockholm. C'est ici, à Skara, donc, que Bert Carlson a bâti son empire, une cinquantaine de compagnies au total, des discothèques, un parc d'attractions, un camping, une maison de disques et une société d'hébergement des réfugiés, un business comme un autre, dit-il.
Il y avait un besoin. Toutes mes idées d'entreprise sont nées d'un besoin. C'était il y a 5 ans, quand j'ai vu à quel prix on pouvait louer des logements, je ne pensais pas que c'était possible. Pour une place de camping, on recevait 600 couronnes par nuit.
600 couronnes, c'est 60 euros versés donc par l'Office des migrations par personne et par jour. Aujourd'hui, Bert Carlson dirige 44 centres d'hébergement, 3 qui lui appartiennent, le reste qu'il loue. Au total, c'est 7000 réfugiés. Il a même créé sa propre société de restauration qui produit 15 000 repas plateaux par jour, toujours dans le même but, réduire les coûts pour augmenter les profits. Il n'a pas peur de le dire, il veut être l'IKEA de l'asile, peu importe qu'on l'accuse d'exploiter la misère du monde. Sa défense, il fait gagner de l'argent aux contribuables.
On améliore la qualité et on a réduit les coûts de moitié. Avant, ça coûtait 600 couronnes par nuit, aujourd'hui on est à 300.
Bon, alors voilà pour l'argument imparable du businessman. On a baissé les coûts, c'est vrai, tout aussi vrai, Anne-Françoise, que son groupe s'en met au passage plein les poches.
Bien sûr, Mickaël, on ne parle pas d'une activité caritative. L'an dernier, sa société a fait un bénéfice de plus de 5 millions d'euros. Cette année, il table sur le double.
Bien sûr qu'on prend 10%. On ne peut pas prendre moins, on prend un risque. On ne sait pas ce que ça va coûter de fermer tout ça. On a investi autour de 25 millions de couronnes. On paye tous les frais d'installation, les lits, les infrastructures, des ordinateurs, des téléphones, les alarmes, les équipements pour recevoir de la nourriture. On a des voitures, des bus à chaque centre, on a 10 000 lits, des tables de ping-pong, des jeux. C'est beaucoup.
Le problème, c'est que ces entrepreneurs privés s'installent où ils trouvent des logements vides, aux communes, ensuite d'assumer les conséquences. Le social-démocrate Lars Kvernqvist a été nommé coordinateur de la politique de l'accueil par le gouvernement. Il explique.
C'est un problème double. D'abord économique, car l'argent va des bénéfices privés au lieu de financer l'accueil des réfugiés. L'autre problème, c'est que ce n'est pas une bonne solution. Les entrepreneurs privés prennent beaucoup d'argent pour des logements qui se trouvent dans des zones où les possibilités de travailler ou de suivre une bonne formation sont bien moins bonnes qu'ailleurs en Suède. On paie donc beaucoup pour une mauvaise solution.
Et le comble du cynisme dans cette histoire, c'est que ce même Bert Carlson a cofondé en 1991 le parti politique Nu Démocratie, parti populiste et surtout anti-immigration.
Tout à fait, Mickaël. Nu Démocratie a fait long feu, mais c'est une formation qui a marqué les esprits, surfant sur le mécontentement populaire, alors que la Suède traversait une sévère crise économique et que le Royaume accueillait, au début des années 90, plus de 100 000 demandeurs d'asile, originaires d'ex-Yougoslavie. Bert Carlson, lui, se défend. Le gouvernement actuel, dit-il, va bien plus loin que ce qu'il demandait.
Vous êtes raciste si vous critiquez le système. On souhaitait imposer des limites pour s'assurer que le système résistera à la pression. On était contre l'attribution de permis de séjour permanents yougoslaves, pensant qu'ils pourraient rentrer chez eux après la guerre. Finalement, je dois admettre qu'ils s'en sont bien sortis. Par contre, on ne s'est pas trompé sur le nombre de ghettos qui se sont développés. Quand on est entré au Parlement, il y en avait 5. Aujourd'hui, il y en a 200.
Le problème désormais pour Bert Karlsson, c'est que la Suède a mis en place des contrôles aux frontières début janvier. Le flux des réfugiés s'est tari. Le pays ne devrait pas en accueillir plus de 35 000 cette année et c'est mauvais pour le business. Mais l'homme d'affaires a déjà d'autres projets. Il veut résoudre la crise du logement en construisant des trailer parks à l'américaine partout en Suède. Et puis il est prêt à venir en aide aux entrepreneurs français qui voudraient se lancer dans l'hébergement de réfugiés.
Ouais, des trailer parks, hein, autrement dit des aires à mobilo. Merci Anne-Françoise Hiver, correspondante d'Inter à Stockholm.
Allez, on change de continent et d'ambiance, Michael, pour parler maintenant de gastronomie et plus précisément gastronomie sud-américaine.
Ah oui, un continent qui est en train d'exploser sur la scène culinaire internationale. On connaissait déjà les grands chefs brésiliens, argentins et péruviens. Et c'est maintenant vers la Bolivie qu'on tourne ses papilles avec la jeune et talenteuse Camila Seidler. Cette Danoise de 33 ans vient d'être élue meilleure chef d'Amérique latine 2016. Et depuis un peu plus de 3 ans maintenant, elle co-dirige à La Paz le restaurant Gusto, qui en langue quechua veut dire saveur. Et c'est précisément le cœur de son travail, faire découvrir ou redécouvrir aux Boliviens la saveur de leurs produits du terroir, produits méconnus, voire totalement oubliés. Bonsoir Alice Campagnol, en direct de La Paz, capitale bolivienne.
Bonjour Michael, bonjour à tous.
Alors vous vous êtes faufilé dans les cuisines du Gusto, Alice, en cuisine et en salle.
Oui, Michael, j'ai eu la chance d'assister aux préparatifs du service de midi et de voir la ruche s'animer. De l'extérieur, le Gusto, c'est un bloc de béton très contemporain et à l'intérieur, on trouve une décoration en andine revisitée avec une grande cuisine entièrement vitrée où vous pouvez donc assister à la cuisson de votre viande de lama. Dans la cuisine du sous-sol, ils sont une vingtaine à trier, à peler, à couper les fruits et les légumes, dont certains sont complètement inconnus en France et en Europe. Par exemple, le mocon chichi, ou la pomme de terre oka, ou le piment hari.
Ouais, c'était d'ailleurs le premier défi de la jeune chef à son arrivée en Bolivie, maîtriser des produits qu'elle n'avait jamais vus à Copenhague.
Oui, Camila Seidler, qui dirige l'établissement et donc qui vient d'être élue meilleure chef d'Amérique latine, elle est danoise et quand elle arrive à La Paz, il y a 4 ans, c'est la première fois qu'elle met les pieds en Bolivie et plus largement en Amérique latine. Il a donc fallu pour elle se familiariser avec les produits locaux.
Ce qui me fascine beaucoup dans cette gastronomie, c'est la diversité. Autant les microclimats que les différentes altitudes créent une cuisine très différente. Sur l'altiplano, on se trouve entre 4 et 5 000 mètres d'altitude et on descend à 100 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans le Beni. On trouve des produits de l'Amazonie complètement différents.
Parce que l'un des principes du Gusto, c'est de n'utiliser que des produits 100% boliviens. Dans ce restaurant, aucun ingrédient ne vient de l'extérieur. Donc ainsi, vous pouvez déguster une crème aux champignons de l'Illimani, cette montagne qui domine La Paz, accompagnée d'un singani, la liqueur star de Bolivie.
Et n'utiliser que des produits locaux, Alice, ça, eh ben c'est le vieux cheval de bataille du cofondateur du Gusto.
Effectivement, Klaus Meyer, qui est à l'origine du projet, un compatriote de Camila Seidler, a fondé le mouvement de la nouvelle cuisine nordique. La jeune chef nous explique en quoi cela consiste.
Klaus Meyer voulait appliquer les principes de la nouvelle cuisine nordique dans un pays en développement. Le respect de la terre, les circuits courts, s'efforcer de travailler avec des produits locaux. L'idée, c'est de respecter toute la chaîne alimentaire.
Et apparemment, ça marche, puisqu'à partir de ces principes, Klaus Meyer a fondé le Noma à Copenhague, restaurant qui est régulièrement classé comme le meilleur au monde.
Et presque chaque année. Alors en résumé, le Gusto, lui, donc restaurant gastronomique à dimension mondiale, mais 100% bolivien, c'est à peu près ça?
Eh bien non, Michael, le gusto, c'est un peu plus que ça. Camilla Sedler, quand elle découvre tout le potentiel du pays, elle a une idée, ouvrir une école de cuisine. Aujourd'hui, il n'y a pas seulement une école, mais il y en a une dizaine à travers toute la Bolivie et elles sont ouvertes aux jeunes des quartiers défavorisés. Ils sont 35 à avoir été diplômés de l'école Gusto et à être ensuite passés en apprentissage au sein même du restaurant. Jorge Luis fait partie de cela et il nous raconte comment il se voit dans le futur.
Je me vois comme cuisinier. Mais avec une autre mentalité. En fait, la mentalité ici en Bolivie, c'est « je veux partir à l'étranger, je veux partir, je veux partir ». Et pour moi, il faut rentrer. Car il faut toujours que quelqu'un vienne de l'extérieur pour te montrer toutes les bonnes choses que tu as. Que tu n'as besoin de rien à l'extérieur, il faut simplement que tu les exploites ici.
Savoir exploiter les richesses de la Bolivie et en tirer le meilleur parti, c'est ce que le Gusto cherche à enseigner dans ses écoles. Aujourd'hui, la jeune chef est donc récompensée pour son délicieux travail en cuisine, mais également pour ce qu'elle transmet auprès des jeunes Boliviens.
Alice Campagnol à La Paz en Bolivie, merci beaucoup. Et pour finir, Nicolas, petite devinette, qui a dit « Nous voulons créer un nouveau terrain artistique en favorisant l'échange et la coopération entre les cinéastes du monde avec toujours cet idéal d'indépendance, de paix
Eva
et
Bédan
d'amitié ?»
Un poète.
Pas franchement. Il s'agit de Kim Jae-yok, tout puissant directeur de Corfilm, Eva, la corporation nord-coréenne d'exportation et d'importation du film. C'est elle qui vient d'organiser la 15e édition du Festival international de Pyongyang. Un Cannes version nord-coréenne avec une soixantaine de films projetés la semaine dernière. 20 pays représentés, 12 longs métrages en sélection officielle, dont des films britanniques, polonais, russes, indiens, nord-coréens. Un seul film français, hors compétition, L'Antiquaire de François Margolin. Et point commun de toutes ses œuvres, ni violence ni sexe, totalement proscrit. Interdite aussi évidemment les productions américaines. Hollywood, non, mais Bollywood, oui. Le film indien Bahubali a reçu un accueil absolument triomphal. Et c'est d'ailleurs l'unique film que les 5 membres du jury ont pu voir en projection publique. Car tous les films en compétition sont vus à huis clos. La réaction des spectateurs pourrait nous influencer, explique un juré. Et avant chaque projection, à votre avis, qu'entendent les spectateurs ? Ça. Eh oui, ma chère Eva Béton, l'hymne nord-coréen, à quand la Marseillaise sur la croisette ? À demain.
À demain, Michael.
Moteur !
Un jour dans le monde. Nicolas Demorand.
Oh, allons-y !
Sur France Inter.
Oh putain, moteur !
Cinéma donc, et toujours le plaisir immense d'accueillir Eva Bétan. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous parlez du film Aquarius. Eva, je me recule sur mon fauteuil et je bois vos paroles.
Alors il faut déjà se reporter à quelques mois en avant. On parlait du Festival de Cannes, Donc film brésilien. Quand l'équipe du film monte en haut des marches, ils sortent une pancarte sur laquelle ils font allusion clairement à la destitution, au processus en cours de destitution d'Elmer Rousseff en parlant de coup d'État. Ils ne se réalisent peut-être pas que c'est l'endroit le plus filmé au monde et ça fait le tour du monde. Quand ils rentrent au Brésil, il y a quelques petites mesures de rétorsion, une interdiction à moins de 18 ans, ramenée à 16. Et puis ce film qui est le plus vendu dans l'histoire du Brésil, n'est pas sélectionné pour les Oscars. Je dirais que le film lui-même est moins directement politique, il est subtilement politique. C'est une femme d'une soixantaine d'années, déjà c'est audacieux de faire une femme 70 ans, d'en faire l'héroïne du film. C'est elle qui, par son cran, par sa sensualité aussi malgré son âge, incarne la révolte en quelque sorte. Un promoteur immobilier veut qu'elle quitte son appartement, elle est la dernière de l'immeuble, elle ne veut pas. C'est là qu'est sa vie. Et donc, on voit, on avait parlé il y a peu de temps, vous souvenez du film de Manhattan, où comment l'habitat est une manière aussi de parler de l'évolution. Là, on est dans une sorte de capitalisme sauvage, quoi. C'est le promoteur qui est prêt à tout pour qu'elle parte. Et on se dit, mais bon sang, il y a eu 14 ans de Lula, de Dilma Rousseff. Alors, on pose la question à Kleber Mendoza-Filho.
It's very complex because,
c'est très complexe parce que les années Lula ont apporté des changements très positifs à la société brésilienne. Pour la première fois, on s'est vraiment soucié d'apporter quelque chose aux classes les plus pauvres. Et ça, ça a vraiment été fait. Mais ensuite, les changements ont pris beaucoup de temps. Et puis, et là, c'était vraiment une erreur. Dans les années Lula, le souci principal a été de faire accéder les plus pauvres au marché, ce qui tout seul n'était pas suffisant. Et on n'a pas investi massivement dans l'éducation, par exemple.
À Cannes, vous aviez fait un coup d'éclat en venant toute l'équipe du film avec une pancarte disant que la destitution de Dilma Rousseff était un coup d'État. Pour vous, c'est vraiment un coup d'État parce que c'est une notion très importante.
Oui, coup d'État, c'est le mot qui convient à ce qui se passe au Brésil. Alors, à ceci près qu'un coup d'État s'accompagne généralement de tanks dans les rues et d'effusions de violence. Ce coup d'État-là est très moderne et très cynique parce qu'il découle d'une série de procédures décidées par le Congrès, procédures qui ne tiennent pas la route juridiquement et qui sont avant tout politiques. Et c'est le Congrès qui, avant le coup d'État, a étranglé le gouvernement en l'empêchant de prendre des décisions pour le pays. Donc il s'agit d'une série d'actes de sabotage du gouvernement, délibérés et complexes. Et le pire de ces actes de sabotage, ça a été la procédure de destitution.
Trago em meu corpo as marcas do meu tempo, a fossa, a fome, a flor, o fim do mundo.
Coup d'État, il le dit, il le redit.
Il l'argumente.
Il argumente, ouais.
Tout à fait. Alors, je ne vous ai pas dit plusieurs choses. D'abord que la femme magnifique qui tient le film, c'est Sonia Braga, la grande actrice. Je ne vous ai pas dit que c'est un film inter. Et il y a une chose qui est très intéressante avec le cinéma, c'est qu'il a fait le tour du monde avec ce film. Il dit, j'ai vu des Lituaniens se reconnaître dans ce type de situation. En même temps, c'est universel. C'est une forme de capitalisme, je mets des guillemets, sauvage, voilà, violent. Et en même temps, par des toutes petites touches, ça vous donne un état d'esprit, c'est ancré dans un pays de cette ville-là, c'est la ville de Recife d'où il vient, ça vous donne ça, à la fois l'universel et le local.
Mmh. Aquarius, merci Eva Bétan, 18h54.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le monde.
L'édito d'Anthony Bélanger, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Promenade dans le vignoble sibérien.
Oui, vous reprendrez bien un peu de Côte de l'Altaï, Nicolas.
Oui, pourquoi pas, oui.
Non, je sais pas, vous n'avez pas l'air. Pourtant, ce mélange de pinot noir et de muscat blanc est très, comment dire, gouléant. Et oui, il est gouléant, ça c'était juste pour le plaisir de prononcer en direct un joli mot de français. Les montagnes de l'Altaï, d'où est originaire notre vin sibérien, eh bien ça se situe aux confins de la Chine, de la Mongolie, du Kazakhstan. Autrement dit, on est loin, très très loin des vignobles bordelais, et pourtant elle pousse les vignes, oui, et enfin elle pousse. Dans ce vignoble du bout du monde, il a fallu tester 600 variétés avant d'en retenir deux qui avaient passé l'hiver sibérien, plus 12 000 cèpes qui ont été plantés, dont seule une vingtaine ont survécu. Après 3 années d'efforts, la première récolte, 6 kilos, a été obtenue, puis la seconde, et enfin le Graal, Nicolas, une magnifique bouteille de Côte de l'Altaï, gouléant donc, et tout le long, eh bien ce sont des spécialistes français qui ont aidé à l'accouchement.
Excusez la question, Anthony, quel est l'intérêt de produire du vin en Sibérie alors qu'on peut l'importer d'ailleurs? Allez-y, hein.
Bon, d'accord, d'abord, il y a la passion d'un homme, il s'appelle Vladimir Wagner, un Russe, capable de patienter 10 ans avant de recevoir le salaire de ses efforts et donc de ses peurs. Et puis ensuite, on parle d'un vignoble qui vient tout juste de passer de 3 à 8 hectares, autrement dit, on est encore loin d'une concurrence directe. Mais Vladimir est aussi un homme d'affaires avisé. Il s'est souvenu que l'on produisait du vin dans cette région jusque dans les années 80. Et puis, il y a les Russes, hein, qui sont des buveurs de vin depuis toujours. Or, d'embargo, en guerre larvée avec la Géorgie et la Moldavie, vous savez, les deux principaux fournisseurs de vins bien alcoolisés et lourdement sucrés qu'adorent les Russes, eh bien, il n'est pas si stupide d'imaginer de nouveaux approvisionnements 100% russes. D'où les efforts de Vladimir. Et puis d'autant qu'il a sous les yeux, Vladimir, pas loin en tout cas, hein, la frontière chinoise n'est pas loin, l'exemple réussi de l'expansion du vignoble chinois. Les Chinois se mettent au vin à la chinoise, c'est-à-dire en commençant par importer, puis par racheter, et enfin par produire à la maison.
Ils sont à la hauteur, les vins chinois ?
Pas encore tout à fait, mais tenez, pas plus tard qu'en 2012, le choc est venu de 4 vins rouges chinois qui, à l'aveugle, lors d'une dégustation honnête, ont battu des Bordeaux français, et ça s'est passé à Pékin. Et pour bien montrer que la Chine prend les choses au sérieux, eh bien figurez-vous que le 15 septembre dernier, elle a envoyé dans l'espace 3 variétés de vignes, histoire de tester leur résistance dans des conditions extrêmes. Enfin, c'est surtout, évidemment, l'idée, c'est de faire parler des vignobles chinois et aussi de contrer les importations massives de vins du monde entier, près de 300 millions de litres annuels. C'est le 5e marché au monde, et le tout en constante augmentation. Des Chinois qui apprennent très vite et qui déjà misent sur la qualité.
Et d'autres régions, Anthony, dernière question, d'autres régions du monde suivent cet exemple chinois ?
Ben oui, parce que le vin, ça tient du miracle. Les vignes, ça pousse à peu près partout, surtout sur des terrains pauvres. Et puis la valeur ajoutée est énorme. Le vin reste synonyme de luxe et de volupté, surtout pour une classe moyenne qui explose, pour une alcoolémie, on va le dire, raisonnable. Conclusion, eh bien, les vignobles se multiplient pour répondre à cette fameuse classe moyenne mondiale en pleine expansion. On commence à produire des vins au Kenya, figurez-vous, par exemple, grâce à l'expertise des vignerons sud-africains, descendants de Français souvent d'ailleurs. La question est plutôt, quelle est la place des vignobles européens et français très petits en comparaison avec des immenses vignobles australiens, chinois ou sud-américains? D'abord, dès qu'il s'agit de créer des vignobles en Sibérie ou ailleurs, vous l'avez vu, on fait appel à nous Français. Autrement dit, il y a du boulot pour les 50 ans à venir pour nos viticulteurs, nos jeunes viticulteurs, nos œnologues, nos spécialistes qui ont envie de voyager. Et puis ensuite, le vin français a, à mon avis, vocation à devenir le produit de luxe par excellence, ce qui est déjà devenu le champagne par exemple, à savoir plus rare, plus cher, légendaire.
Anthony Bélanger, merci. D'un mot, le téléphone sonne tout à l'heure à 19h20 sur le cas Alstom. Que peut faire l'État ? 01 45 24 7000 pour toutes vos questions.